L'émission L'écran radiophonique vous présente un scénario original de Julien Jean-Pierre. Dodécaphonique. Mise en scène. Production Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Là, Barry est obligée de dépenser pour le meubler et elle l'a meublé avec des meubles Louis XV. Lorsque Patrick a des déplacements, elle va avec lui pour s'occuper de lui, lui trouver un hôtel, des repas, les vêtements et recherche des partitions qu'il lui demande. Elle le soigne comme un enfant. Patrick a toujours la santé fragile. Il faut souvent que le médecin vienne. Le médecin dit qu'il faut le soulager. Sa mère inquiète le soigne. Thank you. Patrick n'a pas de vie sexuelle. Marie le surveille pour savoir. Des fois dans la nuit, elle entre dans sa chambre pour voir. Mais non, elle voit qu'il dort comme un enfant. Et puis son corps est trop faible. Dans cette histoire, les héros n'ont pas de vie vraiment sexuelle. Jules par peur et pour son fils, Damien par principe et morale, Marie un peu, mais c'est les sentiments qui comptent. Quant au pauvre Patrick, sa croissance s'est arrêtée avant. Le manque de mère et la vie avec sa mère lui apporte suffisamment pour qu'il ne demande rien de plus. Et en plus, la musique l'excite. Il tombe malade et doit aller à Vichy avec sa mère pour un mois. Ça lui donne le cafard. Il a peur de la campagne à cause de ce qui lui est arrivé. Il dit à Marie, « Je n'aimerais pas y aller. Je déteste la campagne et ça me fait peur. » Elle lui dit, « S'il le faut, c'est pour ton bien. » Il lui dit, « Cela me fait peur. » Elle lui dit, « Tu n'as pas à avoir peur, je serai près de toi. » Et ils sont partis. Ils sont partis en train. Le trajet est long, fatigant. Très fatigant. Extrêmement fatigant. Enfin, ils arrivent à Vichy. Ils sont tous les deux agréablement surpris car ils s'attendaient à une ville morte et ils voient que c'est une ville très vivante. La mère a loué deux chambres dans un hôtel par téléphone. L'hôtel ne se trouve pas bien loin où l'on prend les eaux. Un vieil hôtel Napoléon III, très cossu. On leur a donné des chambres Louis XV. Elles sont toutes les deux, l'une à côté de l'autre. Patrick n'ose pas sortir et sa mère le force à sortir en lui disant « N'aie pas peur, je te protège, je te protège. » Deux fois par jour, il va prendre les eaux et se promener avec sa mère. De ne pas pouvoir jouer, cela l'attriste et l'ennuie. Il ne sait quoi faire de ses journées. La municipalité qui apprend que Patrick est là demande s'il peut jouer à l'opéra. Marie n'aimerait pas, mais Patrick accepte parce que ce n'est que pour une soirée. Elle lui dit, « Tu es ici pour te reposer et tu ne dois absolument rien faire. C'est le médecin qui le veut. Tu ne dois pas jouer. » Patrick lui dit, « C'est juste pour un concert et puis pour moi, jouer, ce n'est pas du travail. Je m'ennuie ici et j'ai besoin de la musique. Cela va me distraire. Et il a joué devant une sable comble. Il a eu beaucoup de succès. Après le concert, Marie lui dit, « Maintenant, tu ne joueras plus ici. » Patrick lui dit, « Si tu veux, mais lorsque je rentrerai à Paris, je recommencerai à jouer. » Elle ne dit rien, parce qu'elle a besoin qu'il puisse rapporter de l'argent. Un jour, en marchant dans les environs de Vichy, il marche devant sa mère tristement. Et à un tournant, il voit des paysans. Il croit reconnaître ses tortionnaires. Il panique et a très peur. Alors il se met à courir. Elle le suit affolé, arrive à le rattraper, le prend dans ses bras. Il tremble comme une feuille. Elle lui dit, « Ce n'est rien, ce n'était que de simples paysans. » Rien de plus, calme-toi, je te ramènerai plus dans ces environs de Bissy. Et elle le ramène. Puis après 3 semaines, il retourne à Paris. Patrick se sent mieux et reprend son travail. Marie le surveille et lui propose de moins travailler. Il accepte parce qu'il veut s'appliquer, mais continue ses émissions de radio. Jean-Marie ne se sent pas bien. Elle est lasse et elle a des vertiges. Elle a mal à la poitrine et tousse. Elle va voir son médecin qui lui dit « Il faut faire des examens. » Malheureusement, vous avez peut-être un cancer. Elle est surprise. Je ne fume pas, le médecin lui dit. Beaucoup de personnes ont le cancer du poumon sans avoir fumé. Elle panique. Elle a peur. Pense à la mort. N'ose pas en parler à Patrick. Va dans une clinique pour se faire faire des examens. En attendant les résultats, elle passe sa journée anxieuse, très anxieuse. Elle marche dans les rues au hasard, car elle n'ose pas entrer chez elle et être près de Patrick. Elle se croit perdue et se demande ce que va devenir Patrick. Elle se dit qu'elle n'a pas de chance dans sa vie. Maintenant qu'elle est heureuse, même très heureuse, on lui enlève sa vie. Si elle était malheureuse, elle ne dirait pas non à la mort. Mais là, elle est heureuse et encore jeune, avec un enfant, et on lui enlève la vie. Non, ce n'est pas possible. Si Dieu existe, c'est injuste. Elle va à la clinique pour les résultats. Le médecin qui la reçoit, un homme grand, mince, cheveux et barbe blanche, lui dit dans son bureau, « Malheureusement, il va falloir faire des rayons. » Elle a peur, très peur, de faire des rayons, de la perte des cheveux, et cela va l'affaiblir, et puis elle ne veut pas dire à Patrick. Et ça ne veut pas dire qu'elle sera guérie. Beaucoup de personnes se font faire des rayons et ne guérissent pas. Elle se dit que malgré tout, elle est perdue, même en faisant des rayons. Elle réfléchit bien et se dit que tout de même, il faut qu'elle en parle à Patrick. Il va s'apercevoir qu'elle va se faire faire des rayons. Et si elle ne lui dit pas, il sera furieux. qu'elle ne lui ait pas dit. Lorsque le soir, elle retrouve son fils au salon, elle s'assoit en face de lui et lui dit « Voilà, depuis quelque temps, je me sentais pas bien. Je suis allé voir mon médecin, il m'a fait faire des examens et on m'a trouvé que j'avais malheureusement un cancer au poumon. Je dois me faire faire des rayons. » Patrice se sent drôle, il a peur. Mais très vite, il se reprend et lui dit « N'aie pas peur, je suis là. Il faut que tu sois forte. Et puis, nous sommes deux. » Elle se dit qu'elle n'est pas forte, mais il faut qu'elle joue, qu'elle soit forte pour Patrick. Alors, elle lui dit « Nous serons deux pour lutter contre la maladie. Je veux absolument guérir parce que je ne veux pas te laisser seule. » Patrick se lève et prend sa mère dans ses bras et lui dit « Je t'aime, je t'aiderai. » Il a très peur car quelque chose lui dit qu'elle risque de mourir. Mais il ne faut pas qu'il lui montre sa peur. Il faut l'aider en étant fort. Alors elle va se faire faire des rayons et a peur de mourir. Cela la fatigue, lui donne des nausées, mais elle supporte la chose. Elle cache à Patrick ses faiblesses et sa peur pour ne pas lui faire peur. Patrick s'en rend compte, mais il fait celui qui ne voit pas pour pas lui faire peur. Il se demande si les rayons servent à quelque chose. Il fait tout pour prouver son amour et reste le plus longtemps possible près d'elle. Elle se sent un besoin d'aller voir un prêtre de sa paroisse, un peu intimidée. Le presbytère est une vieille maison d'un étage qui est à côté de l'église. Elle sonne, très intimidée. La porte s'ouvre et apparaît un vieil homme, les cheveux et barbe blanche, petit, maigre, habillé d'un pantalon noir et blanc. Il lui demande « Vous désirez, madame ?» Elle lui dit « Je m'excuse de vous déranger, mon père, mais j'ai besoin de parler. Il m'est arrivé quelque chose dans ma vie et je me pose certaines questions. Alors j'ai pensé que vous pourriez peut-être m'aider à y répondre. « Entrez, madame. » Elle entre. Ça sent la cire et un côté campagnard chez le prêtre. Les meubles sont campagnards et le plancher sur le sol. Le prêtre l'amène à son séjour qui est une pièce de taille moyenne avec une fenêtre. Il la fait asseoir dans un fauteuil et lui s'assoit en face. Il lui dit « Je vous écoute, madame. » Et lui dit « Voilà mon père, j'ai un cancer et on me fait des rayons. Cela me diminue et même je ne sais pas si ça va me guérir. Je n'ai pas peur de mourir pour moi, mais j'ai un fils et j'ai peur de le laisser seul. » Le prêtre lui demande « Quel âge a votre fils ?» Elle lui dit « Il a 26 ans. » Le prêtre lui dit « Votre fils est bien grand. Je sais qu'un enfant, quel que soit l'âge, a toujours besoin de sa mère, mais là, il peut se débrouiller seul. Ne vous faites pas de soucis pour votre fils. » Elle lui dit, « Votre fils, a eu une enfance très dure à cause de mauvais traitements. Il a une très mauvaise santé, ce qui fait que ça l'a retardé physiquement et psychologiquement. Il est un peu comme un enfant. C'est pour cela que je suis inquiète pour lui. » Le prêtre lui dit, « Je suis sûr que votre fils se débrouillera très bien. Quelles sont les questions que vous posez aussi ? Elle lui dit, par mon fils, je me pose comme question, par exemple, pourquoi la vie ? Pourquoi la souffrance ? Pourquoi la mort ? J'aimerais savoir ce que l'on fait sur cette terre, le curé lui dit. Des questions que tout le monde se pose. La vie n'est qu'un passage sur cette terre pour accéder à l'éternité. Nous vivons sur cette terre pour passer les étapes, pour montrer que l'on est bon pour accéder à l'éternité, c'est-à-dire au paradis. Pour ce qui est de la souffrance, c'est normal, la souffrance physique et psychologiquement prévient quelque chose qui ne va pas. S'il n'y avait pas de souffrance, vous ne sauriez pas que vous êtes malade et l'on ne pourrait pas vous guérir. S'il n'y avait pas de souffrance psychologique, vous ne sauriez pas qu'à l'intérieur de vous-même, il y a la lutte entre le bien et le mal. Elle lui dit, « Oui, mais pourquoi tant souffrir pour accéder à la vie éternelle ? Je ne le mérite pas. Pourtant, je pourrais mourir comme ça, sans souffrance. Mais là, passer des mois et des années à souffrir et se voir se dégrader, pourquoi faut-il ça ? » Le prêtre lui dit, « Je ne sais pas. Peut-être avez-vous des choses à vous faire pardonner. Et puis, il ne faut pas que vous regrettiez la vie. En souffrance, en souffrant, vous n'allez pas la regretter. Vous allez même demander la mort comme une délivrance. » Elle lui dit, « La mort me fait peur parce que j'ai peur de souffrir. » Le prêtre lui dit, « Il ne faut pas avoir peur de la mort. Surtout, soignez-vous même si cela ne vous guérit pas, mais peut tout de même donner des forces et vous permettra de surmonter ce passage difficile pour vous et ceux qui vous aiment. » Il lui dit aussi, « Tant que vous n'êtes pas encore morte, il faut continuer à vivre et à lutter pour votre fils. Et puis la mort, ce n'est pas la fin de tout. Vous vivrez par l'intermédiaire de votre fils et à l'intérieur de votre fils, il y a la même chair que vous. » Elle sort de cette conversation tout de même soulagée, mais lui dit émue, « Je ne crois pas tout ce que vous m'avez dit. J'aimerais bien pouvoir croire à tout ça, parce que si je croyais à tout ça, ce serait ça plus simple pour moi. » Patrick essaie de l'aider, de lui préparer le petit déjeuner, faire le ménage, chercher les médicaments et les lui apporter, etc. Il fait aussi les courses. Il travaille moins pour s'occuper d'elle. Elle reste souvent allongée dans son lit. Il l'aide avec amour et aussi avec angoisse. Il a peur qu'elle meure, mais ne veut absolument pas le lui montrer. Lorsqu'elle parle à Patrick, elle lui parle de la vie et le conseille. Elle lui dit, « Tu dois apprendre à vivre comme un adulte parce que tu auras à prendre des responsabilités. » Lui a peur de vivre seul. Elle lui dit, « Vivre seul, ce n'est pas aussi compliqué que ça, surtout dans la vie moderne. Mais il faut faire attention aux personnes qui voudront te servir. » De tout, se servir de toi. Il faut que tu deviennes plus indépendant. Elle écrit à Philippe et lui prévient, lui dit ce qu'elle a. Il lui écrit ému qu'elle peut guérir. Elle lui fait promettre de s'occuper de Patrick. Il le lui promet, mais lui dit que de bien se soigner. Philippe vient les voir. Il les a retrouvés dans leur appartement. C'est triste, ça sent le malade et les médicaments. Il se sent gêné et peiné de les voir comme ça. Il dit à Patrick qu'il a reçus. Je ne peux rester parce que j'ai des choses à faire, mais je suis venu pour apporter mon amitié. Il leur dit à tous les deux, vous pouvez compter sur moi. Marie l'a reçu dans son lit. Il la voit maigrie, fiévreuse. Elle a perdu ses cheveux. Ça lui fait beaucoup de peine de la voir comme ça et ne le montre pas. Il faut lutter pour guérir. Faites-le pour vous et pour votre fils. Elle lui dit, c'est ce que je fais, mais c'est très difficile, extrêmement difficile. Je m'affaiblis tous les jours, de plus en plus. Il dit à Patrick, il faut que tu aides ta mère et que tu apprennes la vie d'une façon indépendante. Je sais que c'est difficile pour toi de sortir de la musique, mais tu dois le faire à cause de ta mère. Patrick lui dit, je ferai tout pour l'aider. Au cours du séjour de Philippe, Henri Dutreux est venu voir, comme d'habitude, Patrick pour travailler. Il fait celui qui ne voit pas Philippe et est ennuyé qu'il soit là, car il se dit qu'il gêne Patrick pour travailler. Philippe voit avec agacement comment se comporte Henri avec Patrick et se dit qu'il le traite comme un esclave. Il est furieux. Et dit à Patrick et à Marie lorsqu'il est parti, je n'aime pas cette personne qui traite Patrick comme un rien du tout. Pour qui se prend-il? Patrick lui dit, pour avoir la perfection, on est obligé d'être tyrannique, et je l'accepte puisque c'est pour la création d'une œuvre. Philippe lui dit, cela n'est pas une raison pour qu'il te traite comme un esclave. Pour qui se prend-il, cet homme? Philippe est obligé de s'en aller. Il ne peut pas rester, mais il leur dit, vous pourrez toujours compter sur moi. Patrick est paniqué à cause de sa mère et il a des difficultés à travailler. Il se fait disputer par Henri Dutreux. Patrick lui dit, ma mère risque de mourir, elle est très malade, je dois m'occuper d'elle. Henri lui dit, la musique, c'est l'immortalité. Qu'est-ce que c'est que la vie d'une personne? Patrick furieux le gifle et lui dit, c'est ma mère. Et Henri s'en va. Quelques jours plus tard, il revient et s'excuse parce qu'il a besoin de Patrick. Il n'y a que lui qui sache jouer sa musique. Et puis, il fait ce qu'il veut de lui. Patrick lui dit, je veux bien travailler pour vous, mais moins, parce que je dois aider ma mère. Il accepte. Patrick aide sa mère à marcher, manger, etc. et l'accompagne à l'hôpital. La chimio se passe mieux que prévu. Elle s'est acheté une perruque, mais elle reste encore très fatiguée. L'après-midi, lorsqu'il fait beau, Patrick l'amène dans le jardin des Champs-Élysées pour qu'elle puisse prendre le soleil sur un banc. Elle va voir le médecin à la clinique qui examine ses radios et lui dit,
d'après les radios, vous allez mieux.
n'aurait plus besoin de chimie. Elle lui demande « Est-ce que je suis guéri ?» Il lui dit « Pour le moment, le cancer s'est, pour ainsi dire, endormi. Mais vous devez faire très attention. Vous devez souvent passer une visite pour voir si tout va bien et que le cancer ne se soit pas réveillé. Mais comme pour le moment, tout va bien. » Il lui donne malgré tout encore un traitement. Elle est heureuse et le dit à Patrick. Ils sont heureux tous les deux. Patrick lui dit « T'as bien fait de lutter. » Elle lui dit en l'embrassant « Sans toi, je n'y serais pas arrivé. Merci mon chéri. » Elle lui dit encore « J'ai encore quelques années à vivre. Le cancer me donne un moment de répit. » Patrick lui demande « Est-ce qu'un jour tu guériras ?» Elle lui dit « Je ne sais pas. Peut-être. C'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut profiter des instants de tranquillité. Parce que on ne sait pas combien de temps cela va durer. » Patrick est malgré tout heureux. Il est content que le cancer s'est mis en repos, mais il est inquiet parce qu'elle aura toujours la bête dans son corps. Il écrit à Philippe pour lui annoncer la bonne nouvelle. Philippe est content et lui écrit que ça va aller maintenant. Elle va mieux, mais à cause des médicaments qu'on lui donne, elle a toujours des nausées et se sent malgré tout encore fatiguée. Elle ne peut pas faire grand-chose, elle n'a plus de chimio et cela est déjà beaucoup. Petit à petit, Marie reprend ses couleurs et aussi un peu de poids. Elle mange et digère mieux, elle se sent plus forte. Patrick est heureux que les choses redeviennent normales. Ils décident de partir se reposer un peu à Deauville. Ils y resteront un mois. Elle a pris deux chambres. Ils ont pris le train parce que Marie ne peut pas conduire la voiture. Lorsqu'ils arrivent à Deauville, il fait beau et doux. L'hôtel qu'elle a choisi est un 4 étoiles Jean-Napoléon III. Il est près de la plage. On leur a donné deux chambres voisines, Louis XV. Les portes-fenêtres donnent sur la plage. Une fois qu'ils se sont changés et mis leurs affaires en place, ils sont allés se promener sur la plage. Il n'y a presque personne, pas de bruit, tout est calme, sauf le bruit de la mer. Patrick et Marie se prennent le bras pour marcher et ils se sentent tous les deux bien. Marie lui dit « Je me sens bien, tu ne peux pas savoir. » Patrick lui dit « Je reviens avec toi. Lorsque tu n'étais pas bien, moi aussi je l'étais. Nous sommes unis tous les deux physiquement et psychologiquement. Sans doute parce que tu es ma mère. » Elle est heureuse et l'embrasse sur la joue. Puis ils sont rentrés dîner et sont allés à la salle à manger de l'hôtel, qui est une grande pièce décorée or et rouge. Il y a quelques clients, surtout des personnes âgées. Un serveur dans les 18 ans, habillé en serveur, vient à eux et les a conduits à une table. La table est près d'une baie vitrée pour qu'ils puissent voir la mer. Marie dit à Patrick, j'ai un régime, je ne peux pas vraiment manger ce qui me ferait plaisir. Mais toi, tu peux manger ce que tu veux. Patrick lui dit, je mangerai la même chose que toi. Et le jour se passe bien en promenade sur la plage, dans Deauville et repos. Pour que Patrick ne s'ennuie pas trop, elle lui propose d'apprendre à faire du cheval. Patrick lui dit, j'aurais trop peur. Elle lui dit, il faut essayer. Regarde-moi, j'avais peur de mon cancer et tu vois, ça va mieux. Tu dois essayer le cheval. Et puis, tu devrais prendre de l'exercice. Tu es tout maigre. Et Patrick dit qu'il voudra bien essayer. Au début, Patrick a un peu peur des chevaux, mais se met à les aimer et à réussir à monter sur le cheval et à faire le tour du manège. Ça se passe bien. Marie et Patrick, le soir, vont se promener vers le casino. Ils n'y entrent pas, car ils n'aiment pas tous les deux les jeux. Un soir, ils voient sortir du casino un jeune homme d'à peu près 18 ans. Il est grand, mince, le visage un peu osseux, les cheveux châtains, habillé d'un smoking. Il a un côté très distingué. Il va vers eux et leur demande « N'auriez pas une cigarette, s'il vous plaît ?» Marie lui dit « Nous n'en avons pas. » Le jeune homme lui dit « N'aie plus rien sur moi. J'ai tout perdu. Je ne peux même pas m'acheter des cigarettes. Mais ça n'a pas d'importance, car je suis immensément riche. » Marie lui dit « Pourtant, vous sembliez très déprimé. J'ai 18 ans et je suis orphelin. Je viens de perdre ma mère. J'ai décidé de tout dépenser. Je fais ça à cause de mes oncles qui veulent me mettre sous tutelle. Moi, je ne veux pas. Alors tous les soirs, je viens ici au casino et j'essaye de perdre le plus gros possible. Je m'en moque. De toute façon, j'ai plus rien à faire de cet argent. » Marie lui dit, vous pourriez peut-être faire avec votre argent des choses pour aider les autres. Le jeune homme lui dit, ça ne me dit rien, je me moque des autres. Et puis pourquoi est-ce bien d'aider les autres? Est-ce que les autres vous aident? Elle lui dit, vous êtes cynique, il ne faut pas voir les choses de cette façon, trop en noir. Il lui dit, tout est noir dans cette vie. Je m'ennuie à en mourir. Je n'ai même pas une personne qui pourrait m'aider à vivre. La seule qui pouvait m'aider à vivre, c'était ma mère, et elle n'est plus là. Elle seule donnait un sens à la vie. On était tous les deux comme frères et sœurs. Que tous les deux. Personne d'autre ne comptait. Nous faisions tout ensemble. Et même elle me présentait ses amants pour que je puisse lui dire ce que j'en pensais. On s'amusait comme des fous en jetant l'argent par les fenêtres et en ne prenant pas la vie au sérieux. J'étais très heureux, puis un jour elle est morte. Et voilà, je me retrouve tout seul dans ce monde où je m'ennuie à m'en mourir. C'est elle qui donnait du goût à la vie. rien ne m'intéresse, et pourtant je peux tout avoir. » Et il s'éloigne. Marie dit à Patrick, il est suicidaire, il doit être dépressif, il doit faire une dépression et risque de mal finir. C'est triste qu'il soit comme ça et qu'il n'y ait personne pour l'aider. Peut-être est-il triste d'avoir perdu sa mère. Ils se voient de temps en temps vers le casino, se parlent un peu. Le jeune demande qui ils sont, Marie et Patrick. Il le leur dit. Le jeune homme dit à Patrick, tu as de la chance toi, tu as quelque chose qui te fait vivre, moi je n'ai rien. Je m'ennuie à en mourir. Et ce soir, c'est une nuit à mourir. Regarde les étoiles. Et faire le dernier saut. Et ils l'ont vu partir tristement. Deux jours plus tard, ils apprennent en lisant le journal, en prenant leur petit déjeuner, que le jeune homme s'est défenestré le soir où ils l'ont vu pour la dernière fois. Il s'est défenestré de sa chambre. Il y avait, avec l'artiste, l'article, la photographie du jeune homme. Et l'on dit qu'il était très riche, que c'était le fils d'un très riche médecin, qui s'était marié avec une femme beaucoup plus jeune, qu'il était son seul fils unique. Lorsque le médecin est décédé, la mère et le fils ont vécu ensemble en faisant les 400 coups. L'enfant n'a jamais été à l'école. C'est elle qui lui a appris à lire et à écrire. Elle lui apprenait à compter avec des billets de banque. C'est elle qui lui a appris à jeter l'argent par les fenêtres, car il lui disait que l'argent n'avait pas d'importance. Elle l'a fait vivre comme son compagnon et faisait tout ensemble, même les conquêtes amoureuses. Et un jour, elle est morte subitement d'un arrêt du cœur. Le jeune homme, seul, avec une fortune considérable, ne s'est jamais remis de la mort de sa mère, qui était tout pour lui. Marie et Patrick sont très attristés d'apprendre la mort de ce jeune homme. Elle dit à Patrick, « Et dire que nous sommes les dernières personnes à l'avoir vu, et nous n'avons rien fait pour l'aider et lui remonter le moral. » Patrick lui dit, nous n'aurions rien pu faire. Il avait sa vie. Ils sont attristés tous les deux. Patrick pense constamment à l'histoire de ce jeune homme. Il se dit que ça ferait un opéra magnifique. Malgré tout, le séjour se passe tranquillement et Marie reprend des forces. Patrick aussi en reprend, car lorsque Marie est malade, cela l'a vidée. Ils sont rentrés à Paris et la vie a repris. Patrick pense constamment à l'histoire de ce jeune homme. Il se dit que ça pourrait servir de sujet pour un opéra. Lorsqu'il retrouve Henri Dutreux, il lui raconte l'histoire de ce jeune homme et comment il verrait son histoire en faisant des scènes. Il lui raconte le résumé qu'il a fait de l'histoire de ce jeune homme. Ce jeune homme vivait seul avec sa mère, une vie très luxueuse et insouciante. Ils vivaient tous les deux comme des amants, dans le luxe et les casinos, etc. Elle le faisait participer à tout dans sa vie, même lui présentait ses amants. Ils sont comme frères et sœurs. Elle lui apprend que l'argent n'est rien, et qu'il faut le dépenser. Il n'a jamais été à l'école. C'est elle qui lui a appris à lire et à écrire. Elle lui a appris aussi à compter avec des billets de banque. Un jour, sa mère est morte. Il est désemparé, héritier d'une immense fortune. Il sent une solitude immense. Il est incapable de vivre sans sa mère, qui était tout pour lui. Sa solitude est tellement grande qu'il s'enivre en jetant l'argent par les fenêtres. Un jour, il rencontre une jeune femme qu'il ne peut pas aimer. Elle lui dit que ce qu'il possède, ce n'est qu'une fortune immense et rien d'autre. Qu'elle ne peut aimer une personne si elle a une âme, et cela est la plus grande fortune qui soit, et que lui n'a pas d'âme. Elle ne peut pas l'aimer. Personne ne pourra l'aimer. De dépit, il se défenestre de sa chambre parce que il ne supporte pas sa solitude et pour lui la vie lui est insupportable. Il s'ennuie trop sans sa mère. Henri, après avoir écouté ce résumé, lui dit, enthousiaste, « C'est un sujet d'un très bel opéra. Je vais me mettre au travail. » Cela ne gêne pas Patrick qu'il prenne son projet d'opéra, parce que lui est incapable, et plutôt se sent incapable de composer. Ce qui compte pour lui, c'est que ce soit fait. Henri Dutreux trouve que c'est un sujet d'opéra passionnant, et en plus c'est un thème moderne. Une mère qui vit seule avec son fils. Tous les deux font les 400 coups en dépensant des sommes folles et un fils qui, après la mort de sa mère, n'a plus de goût de vivre. C'est un sujet fantastique. Il se met au travail. Les jours et les mois passent. Marie se sent mieux, même de mieux en mieux, et il lui arrive d'oublier sa maladie, qui est pourtant à l'intérieur d'elle. Elle est simplement endormie. Patrick continue à faire son travail, c'est-à-dire à jouer et à faire des émissions de radio. Henri continue à travailler à l'opéra. Il va souvent voir Patrick pour lui faire jouer au piano ce qu'il a composé. C'est une musique terrible, mais elle convient au sujet. Patrick se sent pris par cette histoire. Il a l'impression qu'il est le personnage principal. Et un jour, l'opéra est fini. Puisque c'est un opéra, c'est difficile de pouvoir trouver quelqu'un qui puisse financer pour qu'il puisse être joué. Henri Dutreux va voir l'opéra Garnier pour présenter son opéra. On lui dit qu'ils vont étudier la chose, mais que ce sera difficile de créer un nouvel opéra, car il y a très peu de public pour ce genre de choses. Henri, démoralisé, ne sait que faire. Alors il dit à Patrick, « Nous pourrions présenter l'opéra dans une formule concert, puisqu'on n'arrive pas à présenter l'œuvre d'une façon opéra. Tu pourrais, Patrick, jouer au piano la musique et nous aurions des chanteurs qui pourraient chanter devant la scène comme ça. Cela permettrait au public de connaître mon œuvre. Organiser un concert de cette façon serait fantastique et coûterait beaucoup moins cher et plus facile à organiser. Il suffit de trouver maintenant un chanteur et trois chanteuses. Patrick lui dit, « C'est très bien, cela permettrait de présenter l'œuvre et qui peut-être plus tard, cette version, si elle a du succès, quelqu'un voudrait proposer qu'on la présente d'une façon opéra comme elle était prévue. » Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, dodécaphonique, production, mise en scène, Junier Jean-Pierre.